Alors, pour notre plongée d'aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui agite pas mal l'industrie en ce moment.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a une vraie secousse.
C'est ça, on se base sur une série d'articles techniques et de brèves financières qui viennent tout juste d'être publiés par le média Decentech ce 28 mai 2026.
Des documents très denses d'ailleurs.
Très dense, ouais. Et en fait, toute l'attention est focalisée sur une méga annonce d'Autodesk. Ils viennent de lancer une toute nouvelle division qui s'appelle Autodesk Operations Solutions, ou AOS.
Et ça vient pas seul, hein. Il y a une acquisition derrière.
Voilà, exactement. Une acquisition historique même. On parle du rachat de MaintainX pour environ 3,6 milliards de dollars.
3,6 milliards, c'est pas rien pour ce secteur.
Ah bah non. Et du coup, la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter les mécanismes derrière cette manœuvre.
Parce que sur le papier, ça peut paraître étonnant.
Mais carrément, je veux dire comment et surtout pourquoi un géant mondial comme Autodesk, qui est historiquement ancré dans les logiciels de conception 3D.
Les rois de la CAO, quoi.
C'est ça. Pourquoi il décide soudainement de sortir des milliards pour aller capter des données opérationnelles dans la salle des machines d'une usine ou au sous-sol d'un hôpital.
C'est un vrai changement de paradigme.
Totalement. Et pour bien poser le cadre, pour ceux qui nous écoutent, je me disais qu'il fallait imaginer une analogie.
Vas-y, je t'écoute.
En fait, le modèle industriel actuel, c'est un peu comme si on construisait un vaisseau spatial ultra moderne. L'industrie investit des milliards, ils utilisent les moteurs de modélisation les plus dingues pour simuler genre l'intégrité de chaque boulon,
l'aérodynamisme, tout ça.
Ouais, la conductivité de chaque câble, le niveau de précision est chirurgical. Et puis, le jour J, à la seconde précise où la fusée quitte la rampe de lancement, paf !
Paf !
L'équipe d'ingénierie prend l'épais manuel d'utilisation avec toutes ses données structurelles et il le jette purement et simplement par la fenêtre.
C'est une super image. C'est exactement ça.
C'est absurde, non? La machine vole, le cycle commence, mais les créateurs originaux n'ont plus aucune connexion en temps réel avec la façon dont la structure se comporte vraiment dans l'espace.
Bah, ce schéma d'ingénierie déconnecté, ça illustre très précisément la faille structurelle du modèle actuel. C'est ce que les rapports de Decentech mettent vraiment en exergue, d'ailleurs.
Et ça touche qui, concrètement?
L'industrie de l'architecture, l'ingénierie, la construction et même le secteur manufacturier, en fait. Tout ce monde-là opère traditionnellement sur un modèle très linéaire.
Concevoir, construire et salut.
Voilà. Une fois qu'une usine est assemblée ou qu'un hôpital est livré, bah les données hyper riches du processus de conception, elles sont essentiellement archivées.
Elles prennent la poussière numérique.
C'est ça. Le cycle de vie de l'information s'arrête au moment exact où le cycle de vie physique du bâtiment commence réellement.
C'est quand même un sacré gâchis.
Complètement. Et l'acquisition de MaintainX par Autodesk, bah, ça vise précisément à briser cette linéarité.
Et c'est là que ça marque un changement de cap radical. Parce que quand on analyse le cœur de métier d'Autodesk, historiquement, leur empreinte, elle est strictement dans ce qu'ils appellent le design and make, donc concevoir et fabriquer.
Ouais, ce sont les architectes de la maquette numérique, point.
Exactement. Alors, je me fais l'avocate du diable une seconde, mais attends, pourquoi une entreprise dont l'ADN repose sur la perfection géométrique générée par ordinateur sur écran s'intéresse subitement à la gestion d'une fuite de tuyauterie 10 ans après la livraison d'un bâtiment?
C'est la bonne question. Et les documents de Decentech décrivent cette réorientation comme l'introduction d'un troisième pilier stratégique qu'ils ont baptisé « Operate », donc « exploiter ».
D'accord.
En fait, la philosophie d'Autodesk Operation Solutions, AOS, ça repose sur le concept de cycle de vie continu.
C'est-à-dire?
Bah, d'un point de vue purement financier et stratégique, si tu limites ton interaction à la conception et la construction, tu restreins ta captation de valeur à une fenêtre de, quelques années.
Ah ouais, alors qu'un bâtiment, ça dure des décennies.
Exactement. L'objectif de AOS, c'est d'étendre cette empreinte logicielle sur les 50-60 ans que dure la phase d'exploitation. Ils veulent transformer des modèles statiques en environnement de données vivants.
Ok, je vois. Et d'ailleurs, si on regarde un peu sous le capot de cette nouvelle division AOS, l'architecture technologique est assez révélatrice.
Ils ne sont pas partis de zéro, hein?
Non, pas du tout. Ils ont unifié plusieurs briques qui existaient déjà dans leur écosystème. Dans les sources, on retrouve Tandem.
Ouais, pour l'agrégation et la gestion des jumeaux numériques.
C'est ça. Il y a aussi Fleximm, pour la simulation d'événements discrets et l'analyse de flux.
Très puissant, Fleximm.
Et puis Fusion Operations pour le suivi d'exécution et les Factory Design Utilities. Donc sur le papier, cet assemblage offre une puissance de calcul vraiment impressionnante.
Ah bah pour modéliser des environnements industriels, c'est le top.
Ouais, mais la modélisation a ses limites, non? Je veux dire, même avec le jumeau numérique le plus précis du monde, alimenté par la simulation de Fleximm.
S'il manque l'injection de données issues de la réalité du terrain, le système tourne à vide.
C'est ça. Ça reste une simulation théorique fermée. C'est parfait sur l'écran, mais la réalité est chaotique.
Et c'est pour ça que la viabilité d'un jumeau numérique repose entièrement sur sa synchronisation avec l'état réel de l'actif physique.
S'il n'y a pas de données en continu, le modèle dérive.
Il diverge complètement de la réalité, ouais. Et c'est la justification principale de cette transaction à 3,6 milliards de dollars.
MaintainX, c'est le pont entre les deux, en fait.
Exactement. MaintainX représente le chaînon manquant pour ancrer la suite iOS dans la réalité de l'exploitation quotidienne.
Et les chiffres que rapportent Descentech pour valider cette valorisation de dingue sont passés massifs. On parle d'un accord définitif basé sur un mix de liquidités et de dettes.
Pour acheter une plateforme qui tourne très bien d'ailleurs.
Bah oui, ils affichent des revenus récurrents annuels, les ARR, prévus à plus de 135 millions de dollars en 2026.
Avec une croissance énorme.
Plus de 50% de croissance passive, c'est colossal. Et cette valorisation, elle s'explique aussi par l'architecture même de MaintainX.
Ouais, parce que c'est pas un CMMS traditionnel, un logiciel de maintenance classique.
Non, historiquement, ces logiciels-là étaient conçus pour des environnements du bureau. Des bases de données super lourdes consultées par des planificateurs bien au chaud, super loin de l'usine.
Le fameux tableur Excel amélioré.
Voilà. Alors que la rupture technologique de MaintainX, c'est son architecture complètement axée sur le mobile, pensée spécifiquement pour les travailleurs de première ligne.
Les techniciens sur le terrain, quoi.
Exactement. Si on reprend l'anatomie d'une infrastructure, MaintainX, ça opère littéralement comme son système nerveux.
Ah, j'aime bien l'analogie.
Bah, c'est l'interface directe dans la poche du technicien qui capte les signaux de défaillance en temps réel. Imagine, t'as une pompe hydraulique avec une micro-fuite.
Ou une inspection de sécurité qui relève une anomalie, ouais.
Ou un capteur qui signale une vibration bizarre sur une chaîne de montage. Le technicien sur le terrain saisit ça sur son mobile.
Et ça génère l'influx nerveux.
C'est ça. L'influx nerveux qui remonte instantanément vers le cerveau numérique centralisé d'AGOS.
C'est marrant que tu dises ça, parce que le PDG d'Autodesk, Andrew Anagnost, il utilise une terminologie assez similaire dans les articles.
Ah ouais, il dit quoi?
Il qualifie MaintainX de système d'action. Il explique qu'intégrer une expertise opérationnelle profonde, c'est absolument requis pour faire converger le numérique et le physique.
Donc le modèle 3D devient vivant.
Voilà. Le modèle dans tandem cesse d'être une simple archive géométrique. Ça devient un modèle dynamique, constamment mis à jour par les ordres de travail réels sur le terrain.
D'accord. Mais du coup, cette convergence des deux mondes, ça pose forcément la question du traitement des données, non ?
Le volume devient ingérable pour un cerveau humain, c'est sûr.
C'est ce que je me disais. Une fois que ce système nerveux inonde le jumeau numérique de données contextuelles, la charge cognitive explose.
Et c'est là que les articles soulignent le rôle central de l'intelligence artificielle.
Alors, justement, l'IA, c'est le mot à la mode, on l'entend partout, comme un espèce de vernis marketing pour survendre des trucs d'automatisation basique.
Le fameux AI washing, ouais.
Voilà. Donc, la question critique qu'il faut se poser en lisant ces sources, c'est de définir à quoi ressemble concrètement l'application mécanique de cette soi-disant IA au niveau système. Genre, un mardi matin à 8h, dans une vraie usine, il se passe quoi ?
Eh bien, les rapports de Descentech insistent sur une loi fondamentale. L'efficacité d'une IA, elle est strictement proportionnelle à la qualité et au contexte des données qu'elle avale.
Si on rentre des données poubelles, on a des prédictions poubelles.
Exactement. Un algorithme entraîné sur des données isolées va faire des recommandations complètement déconnectées de la réalité physique. Mais dans ton scénario de l'usine le mardi matin à 8h,
ouais.
Le système MaintainX collecte des données à haute fréquence sur l'historique d'un équipement spécifique.
Par exemple, le temps de cycle exact.
Le temps de cycle, les variations de température enregistrées par les techniciens pendant les rondes, le type de lubrifiant utilisé la semaine dernière, tout ça.
Ok. Et l'IA intervient en croisant cette télémétrie de terrain avec les specs de conception du jumeau numérique Tandem.
Voilà, c'est la rencontre entre le réel et le théorique.
Donc, de la maintenance prédictive, c'est pas juste détecter qu'un truc clignote rouge en ce moment.
Non, l'algorithme évalue carrément l'écart entre la tolérance de conception originale du moteur, prévue par les ingénieurs, et l'usure mécanique constatée sur le terrain.
Ah d'accord, donc le système va générer une prédiction du genre « attention, ce moteur va lâcher dans 48 heures ».
C'est ça. Et ça va plus loin. Il déclenche la commande de la pièce de rechange automatiquement.
Avant même la panne.
Avant la panne. Il commande la pièce via le système d'approvisionnement et il planifie l'intervention du technicien.
Non mais c'est fou. Dans des environnements critiques comme un hôpital ou un centre de données ou même une chaîne de montage automobile, éviter un arrêt non planifié, c'est une préservation de capital énorme.
Des millions de dollars par heure parfois. Et Stephen Hooper, le vice-président principal d'EOS, il articule bien cette vision.
Il dit quoi dans les articles OM ?
Il explique que le but, c'est pas de faciliter la gestion statique, mais d'imposer un modèle d'amélioration continue. La capture des données d'exécution génère ce qu'ils appellent une boucle de rétroaction continue.
Alors, ce mécanisme de boucle de rétroaction, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'y attarde.
Ouais, parce que ça modifie tout.
Ça modifie fondamentalement le processus de création industrielle.
Les données de performance capturées par MaintainX, elles servent pas juste à réparer le truc existant.
Non, elles remontent le courant.
Exactement. Elles sont formatées et renvoyées vers l'amont, directement dans les logiciels de conception des ingénieurs pour leurs futurs projets.
Pour qu'ils ne fassent pas la même erreur deux fois, c'est ça. Prenons un exemple concret. Si une configuration de pompe hydraulique est placée dans un angle hyper restreint d'un sous-sol.
Le truc impossible à atteindre.
Voilà, le cauchemar du technicien. Et que cette localisation génère statistiquement 30% d'interventions de maintenance en plus, parce que c'est galère d'y accéder, pendant 5 ans.
L'IA va flaguer cette anomalie géométrique.
Ouais. Lors de la modélisation de la prochaine usine, le logiciel de conception va alerter l'ingénieur en temps réel, en mode « Attention, cet agencement va causer des inefficacités opérationnelles ».
Donc, pour reprendre ton analogie du début, le manuel du vaisseau spatial n'est plus obsolète au décollage.
Voilà. Ces données de vol réécrivent en permanence les spécifications techniques de la prochaine génération de vaisseaux.
C'est magnifique sur le papier. C'est l'aboutissement théorique de l'écosystème AOS.
Sur le papier, oui. Mais...
Mais l'ingénierie financière et organisationnelle d'une telle fusion dans la vraie vie, ça frotte. Ça frotte beaucoup.
Ah bah c'est sûr. Et les analyses de Dessintech le montrent bien. Ils cartographient avec précision les zones de turbulence.
Les facteurs de risque sont énormes pour une transaction de cette taille.
Surtout quand on regarde l'historique des fusions et acquisitions technologiques. C'est un peu un cimetière, hein.
Ouais. Intégrer une start-up ultra agile dans une infrastructure logicielle qui a 40 ans, ça finit souvent par détruire de la valeur.
Le choc culturel est inévitable. D'un côté, t'as la culture des bureaux d'études, de la CAO. C'est méticuleux, axé sur des cycles de développement hyper longs, la perfection théorique.
Et de l'autre, la culture de MaintainX. Une application mobile, itérative, centrée sur l'utilisateur final en tenue de chantier, avec une tolérance au pragmatisme brut, on va dire.
Move fast and break things, quoi. Tenter de forcer ces deux mondes à partager le même code de base et la même philosophie, ça produit souvent des interfaces incohérentes.
Et ce défi de l'intégration culturelle, les sources l'identifient clairement comme un risque majeur. Mais il n'y a pas que ça.
Il y a l'argent.
Il y a le contexte macroéconomique, ouais. Ça met une pression de dingue sur le bilan d'Autodesk.
Bah, financer une acquisition de 3,6 milliards de dollars, ça implique une grosse augmentation de la dette.
Surtout en ce moment. Les sources soulignent la vulnérabilité de cette structure face à l'inflation, à la volatilité des taux d'intérêt qui font grimper le coût de la dette.
Et les incertitudes géopolitiques globales.
Exactement. Tout ce qui pèse sur les investissements industriels en général.
Et vite.
Très vite, ouais.
Or, imposer à des utilisateurs industriels de migrer vers de nouveaux modèles de transactions, c'est risqué. Les gestionnaires d'installation, ils ont des processus figés.
Ils détestent le changement.
Voilà. S'ils perçoivent AOS non pas comme un outil pour les aider, mais comme une tentative de les verrouiller dans l'écosystème d'un seul fournisseur...
Le fameux vendor lock-in.
C'est ça. Bah, le taux de désabonnement pourrait s'accélérer. Le pari d'Autodesk, c'est vraiment de se dire que la valeur de la maintenance prédictive va surpasser la résistance au changement des opérateurs.
C'est un gros pari. Mais les analystes mettent aussi ces risques en balance avec l'expansion massive du marché, hein.
Le TAM, le marché total adressable...
Ouais. Le modèle traditionnel, ça limitait Autodesk au budget des concepteurs et des ingénieurs.
Ce qui est déjà pas mal.
C'est pas mal. Mais avec la stratégie Operate, ils ciblent carrément les budgets d'exploitation des entreprises. Celles qui gèrent des millions d'actifs dans le monde. C'est une autre échelle.
Et au-delà de l'argent, les sources insistent beaucoup sur un autre aspect pour justifier cette manœuvre auprès des investisseurs.
Oui.
Le développement durable.
Ah oui, l'argument écologique ?
Bah, la capacité d'analyser la conso énergétique en temps réel via MaintainX et de l'optimiser avec les modèles de tandem, ça offre aux industriels un vrai outil pour réduire leurs inefficacités.
Surtout avec les contraintes réglementaires sur les émissions carbone qui explosent.
C'est une couverture stratégique en béton armé. Donc si on résume un peu le chemin parcouru pendant cette analyse...
Vas-y, je te laisse récapituler.
La création d'Autodesk Operations Solutions et le chèque de 3,6 milliards pour avaler MaintainX, c'est pas juste de la consolidation logicielle, c'est vraiment l'implémentation de cette boucle continue entre la conception initiale et l'exploitation quotidienne.
Avec l'IA au milieu qui prévient les pannes grâce à la télémétrie réelle Textoo.
C'est ça. Le changement de paradigme fondamental, au final, c'est le statut même de l'infrastructure physique.
Les bâtiments ne sont plus des produits finis.
Exactement. Les réseaux logistiques, les hôpitaux, les usines, ils transitionnent vers un état de système apprenant. Ils génèrent en permanence des données pour s'optimiser eux-mêmes.
C'est fascinant quand on y pense.
Et ça soulève une réflexion presque systémique qui va bien au-delà du logiciel.
Comment ça ?
Je me disais, en préparant cette émission, si chaque élément structurel, chaque valve, chaque circuit transmet un flux de données pour optimiser son successeur, l'architecture physique devient un processus purement évolutif.
Comme de la génétique, en fait.
Ouais. On peut imaginer un horizon où nos villes, nos environnements urbains ne sont plus juste des visions d'ingénierie figées. Ce seraient des écosystèmes qui se redessinent itérativement.
Des métropoles qui mutent de génération en génération.
C'est ça, guidées par leurs propres algorithmes de survie et d'efficacité, assimilant chaque défaillance. Si le monde bâti acquiert la capacité d'évoluer à la même vitesse que le code informatique qui le surveille, la définition même de l'architecture s'en trouve altérée.
Une ville qui se met à jour comme un logiciel.
Exactement. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est une réflexion qui mérite d'être longuement méditée.
Absolument.
Merci de nous avoir suivis pour cette exploration approfondie. À la prochaine.